Bonsoir Fabien de Saint-Ès et désolé pour les quelques secondes de retard.
Aucun souci Fred et les amis, à bientôt. Allez jouer dehors avec vos action figures. Pour nous c'est parti, le 18-20 de France Inter est ouvert, installez-vous. C'est la dernière de la saison, soyez les bienvenus sur la planète et sa banlieue. Le 18-20, c'est d'abord ce que vous devez retenir de cette soirée du jeudi 15 juillet avec le journal de Mariam El Kurdi. Bonsoir Mariam.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'essentiel de ce soir commence avec des pluies torrentielles.
Oui, le bilan est lourd en Allemagne après les pluies diluviennes et les inondations. Au moins 42 morts. La Belgique est également touchée, nous y reviendrons bien sûr. Au sommaire également, les questions des commerçants par rapport à l'obligation du pass sanitaire. La ministre du Travail, Elisabeth Borne, est allée à leur rencontre à la Défense près de Paris. La mort du journaliste néerlandais, Peter R. de Vries, il avait été blessé par balle en sortant d'un studio de télévision à Amsterdam. Beaucoup de réactions, d'indignation aux Pays-Bas. Des soupçons de dopage sur le Tour de France dans l'équipe du Bahreïn, nous y reviendrons. Et côté sportif, la 18e étape remportée par Pogacar ce soir.
À 18h15, un jour dans le monde. Ce soir, avec Pierre Aski, nous allons essayer de mettre le globe avec une colonne des plus, une colonne des moins, voir un peu ce que cette saison où chacun a pu péniblement parfois sortir et s'extraire du Covid, voir un peu donc ce que cette saison nous aura permis de découvrir après des élections par exemple comme au Chili ou en Israël, ce que disent les mouvements qui se sont levés cette année en Birmanie, en Biélorussie et tout ce qu'il faudra suivre avec grande attention après l'été. À 19h20, le téléphone sonne, nous l'avons intitulé « L'été en liberté conditionnelle » parce que c'est un peu ça, on ne sait pas si le Delta nous pourrira les vacances, si la poussée vers la vaccination nous sauve, liberté conditionnelle aussi parce qu'on parle beaucoup justement de ce mot liberté en ce moment, parce qu'on se regarde aussi comme pays pour constater qu'il nous a fallu un gros coup de pression et des menaces pour réveiller ceux qui ne voyaient pas l'urgence d'un vaccin. On parle de tout ça ensemble avec le sociologue Jean Viard, avec lequel vous aimez dialoguer, ça tombe bien lui aussi, et ça se passe au 01 45 24 7000.
France Inter.
Des inondations donc meurtrières chez nos voisins européens.
Oui, c'est en Allemagne que le bilan est le plus lourd, au moins 42 morts, 6 victimes en Belgique, des dizaines de disparus dans les deux pays. Sur les chaînes de télévision allemandes et belges, on découvre des paysages de quartiers transformés après les pluies diluviennes, des arbres arrachés, des maisons envahies par les eaux. Bonsoir Frédéric Seyss.
Bonsoir Mariam.
Quelle est la situation ce soir et quelles sont les zones les plus touchées ?
Alors on compte ce soir au moins 42 morts en Allemagne, dans l'ouest du pays. Certains habitants ont dû se réfugier sur leur toit. Ils racontent les inondations violentes et la crue soudaine qui emporte tout ou presque sur son passage, arbres, véhicules et parfois les habitations elle-même. Près de la moitié des décès est à déplorer dans le land de Rhénanie-Palatinat, région frontalière avec la Belgique et le Luxembourg. Selon la dirigeante de cet État, Malou Dreyer, le bilan reste encore très incertain.
Nous avons de très nombreux disparus. Sans doute que certains ont pu se mettre à l'abri et ont trouvé refuge chez des amis, des parents. Mais pour l'heure, nous ne pouvons pas dire combien de personnes sont toujours en danger ou pas. Beaucoup essaient de contacter des proches, mais les réseaux de téléphonie mobile sont toujours hors service et c'est très très difficile.
Et le gouvernement allemand a mobilisé 300 soldats pour venir en aide aux secouristes. Angela Merkel, la chancelière, s'est dite bouleversée par cette tragédie. En Allemagne, à 2 mois des élections générales, cette catastrophe a forcément pris une dimension politique. Les prétendants à la succession d'Angela Merkel se sont rendus sur place. Du côté des écologistes, on voit dans cet événement la traduction du changement climatique. Le Parti Vert appelle à prendre des mesures urgentes.
Et en Belgique, Frédéric Seyss, on s'inquiète surtout à Liège.
Oui, au point que les autorités demandent aux habitants qui le peuvent de quitter la ville. La crue de la Meuse n'a pas atteint son pic, selon les autorités. À Verviers, ville voisine, elle aussi très touchée, un couvre-feu est mis en place ce soir, 21h, pour éviter les pillages. Jusqu'ici, 6 morts ont été dénombrés en Belgique. Selon le gouvernement de la région Wallonne, des centaines, voire des milliers de personnes vont maintenant devoir être relogées.
Merci Frédéric Seyss. La France a fourni un hélicoptère et une équipe de sauveteurs pour participer aux opérations à Liège. L'Italie et l'Autriche vont aussi prêter main forte. En France, on est bien loin de vivre la même situation, mais prudence tout de même face aux pluies persistantes de l'Est. 2 départements en vigilance orange, pluie, inondation, le Doubs et le Jura jusqu'à 22h. 7 en vigilance orange au cru, il s'agit des Ardennes, de la Marne, de la Meuse, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, le Bas-Rhin et le Haut-Rhin. Il y a une forte probabilité de nouveaux variants possiblement dangereux. L'alerte vient de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. La pandémie est loin d'être finie, soulignent les experts. Un autre message d'alerte ce soir de l'ONU concernant la vaccination des enfants contre la diphtérie, le tétanos ou encore la coqueluche. Il y a eu des retards à cause de la pandémie de Covid l'an dernier. En France, de nouvelles règles pour ceux qui reviennent d'Espagne ou du Portugal et qui ne sont pas vaccinés. Un test de moins de 24 heures sera à faire au retour. La mesure devrait entrer en vigueur ce week-end, déclare Clément Beaune, le secrétaire d'État aux Affaires européennes. Concernant le Covid, ce chiffre, 96% des personnes qui ont contracté le Covid avec des symptômes la semaine dernière n'étaient pas vaccinées. C'est ce que déclare ce soir le ministre de la Santé, Olivier Véran. Il était en visite dans un centre de vaccination de Chambéry. Pendant ce temps, Emmanuel Macron, lui, est allé sur la route de la 18e étape du Tour de France. Déplacement dans les Hautes-Pyrénées, consacré notamment au tourisme, mais également pour rassurer sur les nouvelles mesures annoncées, l'extension du pass sanitaire. Il a rappelé qu'il avait été retardé au 30 août pour les 12-17 ans. Et histoire de pousser à la vaccination, il va falloir bientôt s'habituer à ce pass sanitaire, passeport d'entrée pour le musée, le ciné dans 4 jours et à partir du mois d'août, passe d'entrée pour le café, le restaurant ou encore le centre commercial. Pass sanitaire obligatoire pour tous ceux qui travaillent dans ces lieux et qui reçoivent du public. En clair, ils devront soit être vaccinés, soit présenter un test PCR à faire tous les deux jours. Donc, autrement, ils risquent d'être sanctionnés. La ministre du Travail, Elisabeth Borne, était ce matin au centre commercial Les Quatre Temps à la Défense, près de Paris, pour discuter avec les professionnels qui se posent forcément beaucoup de questions, Hélène Philly.
Des questions sur le calendrier d'abord.
Les salariés, on donne un délai. Hein. Vous avez entendu que le pass sanitaire pour les salariés, ça sera à partir du 30 août.
Sauf que tout le monde ne va pas pouvoir se vacciner aujourd'hui ou demain matin.
Il faut qu'on vous aide aussi vacciner vos salariés.
Voulez, psychologiquement, de donner une période très très courte comme ça, ça manque un peu d'oxygène en fait.
Les commerçants auraient préféré mi-septembre. Mais il y a un autre point qui ennuie le directeur du magasin Go Sport, Eric Landais.
Il risque d'y avoir au niveau des embauches des choses discriminantes. C'est qu'entre deux personnes, le premier prérequis, ça ne sera pas les compétences ou l'accueil ou le sourire ou tout ce que vous voulez, mais ça sera est-ce que tu es à jour au niveau de ton passeport sanitaire quoi.
D'autres sont mal à l'aise vis-à-vis des sanctions encourues par le salarié, une suspension du contrat de travail jusqu'à 2 mois et dans le cas extrême, un licenciement. Elisabeth Borne assume.
On peut voir des atteintes aux libertés, aux droits du travail. On est dans une période exceptionnelle. Aujourd'hui, alors qu'une partie a fait la démarche pour se faire vacciner, vous voyez, je pense que ceux qui ont fait la démarche ne comprendraient pas de devoir à nouveau subir des fermetures, des restaurants, parce que certains considèrent que leur liberté, c'est de ne pas se faire vacciner.
Certains professionnels du droit pointent tout de même un risque juridique, lié notamment au respect du secret médical, si l'employeur est chargé du contrôle.
Un reportage Hélène Philly à la Défense, près de Paris pour France Inter. Pass sanitaire obligatoire donc pour certaines professions, pour certaines activités ou loisirs. Obligatoire également pour prendre le train ou l'avion. Là aussi, il faut une logistique. Air France va proposer à ses clients d'intégrer à leurs billets les données sanitaires pour fluidifier les passages à l'aéroport. La SNCF travaille à un dispositif similaire. Et pour ne pas que la vigilance baisse face au Covid pendant les vacances, des équipes de bénévoles de la Croix-Rouge proposent des dépistages et des messages de prévention. Dans les Bouches-du-Rhône, 5 équipes mandatées par l'Agence régionale de santé. Elles se déplacent sur les lieux festifs, dans les gares et sur les aires d'autoroute. Mathilde Vinceneux les a suivies sur l'aire de Lançon de Provence, sur l'autoroute A7.
Avec leur chasuble rouge, les bénévoles s'arrêtent par petits groupes sur les aires de pique-nique au niveau de la station essence, devant les restaurants et les toilettes. Ils distribuent des autotests et appellent les voyageurs à la prudence.
Voilà, donc il y a 5 tests. Oui, mais malgré la vaccination, on peut être porteur et attraper la Covid.
Les bénévoles sont souvent confrontés à des questions sur la vaccination.
Pourquoi se faire vacciner si on peut toujours attraper le Covid ? Il est où l'intérêt ?
Je suis tout à fait contre. Après, je respecte les avis de tout le monde, mais je demande qu'on respecte le mien aussi, c'est tout.
Les échanges sont devenus plus difficiles avec les dernières annonces du président, racontent les bénévoles. Les gens se braquent plus facilement et veulent oublier un peu l'épidémie sur la route des vacances. L'important, c'est d'entamer le dialogue, selon Marine Passeri, coordinatrice pour la Croix-Rouge dans les Bouches-du-Rhône.
Nous, on va expliquer, mais ça permet à chaque fois, du coup, les gens, même si quand on n'a pas la réponse, ils disent « Ah oui, vous avez raison, j'ai demandé à mon médecin ». Voilà, c'est qu'on a ouvert à un moment une porte.
Avec toujours un principe pour les bénévoles, être dans la bienveillance et éviter les discours moralisateurs. Lançon de Provence, Mathilde Vinceneuve, France Inter.
Et venons-en maintenant à cette agression qui avait suscité une vive émotion à Amsterdam il y a 10 jours. Le célèbre journaliste néerlandais spécialisé dans les affaires criminelles, Pieter R. de Vries, 64 ans, il a succombé à ses blessures. Il avait été touché par balles, dont une dans la tête, en plein jour dans le centre-ville d'Amsterdam. Correspondance Antoine Moutot à La Haye.
Un décès qui dépasse quasiment l'entendement pour le Premier ministre Mark Rutte. Un homme courageux assassiné, d'après le ministre de la Justice Ferdinand Grapperhaus. Depuis la nouvelle un peu après 14 heures de la mort de Pieter R. de Vries, les hommages envers le journaliste d'investigation sont légion. Sur les réseaux sociaux, de nombreux Néerlandais partagent des photos de lui en noir et blanc avec ces mots « On ne peut pas être libre à genoux ». La devise de Pieter R. de Vries, selon ses proches. Après l'attaque sanglante dont il a été victime la semaine dernière, beaucoup ici ont espéré jusqu'au bout qu'il survive. Pour l'instant, les autorités sont assez discrètes sur l'enquête en cours, mais selon les médias néerlandais, qui citent des sources proches du dossier, elles tentent de déterminer un lien entre deux suspects arrêtés peu après l'attaque et la mafia de la cocaïne. Pieter R. de Vries étant présenté depuis plusieurs mois comme le confident d'un témoin clé dans une vaste affaire de règlement de compte. D'autant plus qu'en 2019, l'avocat de ce témoin clé avait lui aussi été assassiné en pleine rue. La Haye, Antoine Moutot, France Inter.
Et réaction ce soir de RSF, son assassinat est un nouvel épisode d'une série noire en Europe où le crime organisé représente un danger majeur pour le journalisme, selon le secrétaire général de Reporters sans frontières, Christophe Deloire. La Commission européenne lance des procédures d'infraction contre la Hongrie à propos de sa loi qui interdit la promotion, entre guillemets, de l'homosexualité auprès des mineurs, et contre la Pologne pour les zones sans idéologie LGBT décrétées par certaines collectivités locales. L'exécutif européen dénonce le caractère discriminatoire de ces mesures à l'encontre des personnes LGBT+, Fabienne.
Une perquisition menée la nuit dernière dans les chambres d'hôtel des coureurs et des cadres de l'équipe cycliste Bahreïn.
Oui, un Tour de France pas très serein pour cette équipe. Conséquence d'une enquête préliminaire ouverte il y a près de 2 semaines par le parquet de Marseille. Enquête pour acquisition, transport, détention, importation d'une substance ou méthode interdite aux fins d'usage par un sportif sans justification médicale. Autrement dit, des soupçons de dopage, Ariane Grisel.
Et oui, plusieurs explications à l'ouverture de cette enquête préliminaire. Il y a les performances de la formation qui intriguent les initiés depuis quelques temps. Bahreïn s'est illustré sur le Giro en mai, à la fin du critérium du Dauphiné début juin, et ce soir en tête du classement par équipe du Tour de France. Alors vous me direz qu'il en faut forcément un en tête, mais à ces résultats viennent s'ajouter un environnement décrit comme sulfureux. Le nom du patron de l'équipe, le Slovène Milan Erzen, est déjà apparu dans un autre dossier, l'affaire de dopage sanguin Aderlas, d'où donc l'ouverture de cette enquête préliminaire pour vérifier les soupçons. La perquisition menée la nuit dernière l'a été par 25 gendarmes de l'OCLAESP, l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique. Ils ont passé près de 5 heures sur place, sont repartis vers 2 heures du matin avec des documents et du matériel. L'un des objectifs est de vérifier les produits médicaux trouvés sur place et surtout si leur utilisation peut être justifiée. De son côté, l'encadrement de l'équipe Bahreïn dit dans un communiqué être attaché au plus haut niveau de professionnalisme et adhérer à toutes les exigences réglementaires.
Merci Ariane Grisel du service police-justice de France Inter. Le Tour de France sportif, maintenant c'est le dernier épisode, c'était le dernier épisode montagneux pour les coureurs. 18e étape, un parcours de 130 km de montagne entre Pau et Luz, Ardiden, le col du Tourmalet en vedette. Bonsoir Fanny Lechevestrier.
Bonsoir à tous.
Et une fois de plus, le Slovène Pogacar rafle tout.
Et oui, à 22 ans, Tadej Pogacar a tué tout suspense encore une fois en plaçant une attaque dans les 400 derniers mètres de la montée à Luz Ardiden. 3e victoire d'étape sur ce tour pour le Slovène. Et à 3 étapes du dénouement, eh bien, il compte désormais 5 minutes 45 secondes d'avance sur son dauphin, le Danois Jonas Vingegaard. Le tour est fini, ou presque. Les Français auront une fois de plus tout tenté aujourd'hui. Julien Alaphilippe, mais aussi et surtout David Godu, en vain demain. Place à la plaine et les chances tricolores de victoire se réduisent comme une peau de chagrin.
Il faut toujours tenter. Merci beaucoup Fanny Lechevestrier. C'est le film de la soirée au Festival de Cannes, Memoria, projeté ce soir sur la croisette du Thaïlandais Apichatpong Weerasethakul, Palme d'Or en 2010. C'est son premier film tourné hors de Thaïlande, en l'occurrence en Colombie, à découvrir dans le journal de 19h, Fabienne.